bien, merci, chère Marie. Il me revient donc de clore ce colloque. Je voudrais vous remercier très vivement, au nom aussi de Myriam Aït Aoudia et de Yann Raison du Clésio, les intervenants, les discutants et les participants qui nous ont permis, par leur réflexion, d'avoir un colloque d'une grande densité, je crois, et d'une belle richesse. Nous avons donc, au cours de ces deux jours, abordé un thème que l'histoire présente, depuis une trentaine d'années, a rendu particulièrement saillant. Il s'est agi de rendre compte de la relation entre partis politiques et religion depuis les années 1960-1970. Lorsque nous nous sommes engagés avec la FSR, l'Association française sciences sociales des religions, dans ce projet, il y a maintenant 8-9 mois, nous ne manquions pas vraiment de ressources théoriques. La science politique avait abordé la question de la relation entre le politique et le religieux déjà sous plusieurs angles. Elle s'était interrogée, par exemple, sur la genèse des partis religieux, et le politiste norvégien Stein Rokkan, en particulier, avait fait du clivage religieux-séculier le principe générateur des toutes premières formations politiques. La science politique s'était également intéressée au comportement des électeurs religieux. Et cela, d'ailleurs, était venu très vite. On se souvient du début du XXe siècle. À ce moment, André Siegfried produit son tableau politique de la France de l'Ouest et repère, pour ce qui concerne l'Ouest, une superposition étroite entre les terres catholiques et les terres conservatrices, ouvrant de la sorte toute une série de travaux que viendra surplomber dans les années 1960 le fameux ouvrage de Guy Michelat et de Michel Simon, Classe, religion et comportement politique. Aux États-Unis, nous avons eu la même tendance. Paul Lazarsfeld, par exemple, s'intéressera à cette question avec peut-être moins d'attention qu'on l'aurait souhaité, préférant d'autres clivages, d'autres investissements. La science politique, enfin, s'était également arrêtée sur le devenir des partis religieux, en pronostiquant, à une époque où triomphait le développementaliste, leur disparition prochaine, comme il est arrivé, d'ailleurs, avec la transformation progressive des partis catholiques en partis démocrates, chrétiens, avant qu'ils ne deviennent eux-mêmes de simples partis humanistes ou conservateurs. Arend Lichtpart, le théoricien du consociationnisme, nous a laissé d'ailleurs un certain nombre de pages sur cette question de la sécularisation interne des partis catholiques qui avaient trouvé à émerger à la fin du XIXe siècle. Or, de nouveaux travaux ont, depuis les années 1980, été produits à la faveur d'une actualité effervescente, des travaux qui ont tenté non seulement de rendre compte de la situation présente, mais d'en rendre compte avec de nouveaux concepts, avec de nouvelles approches. Ce colloque a voulu mettre ces travaux en relation, en se plaçant, comme le rappelait hier Myriam et Yann, sous un triple principe d'organisation. Un principe d'abord de comparaison géographique. Les travaux menés sur les aires culturelles différentes s'ignorent souvent. Nous avons voulu les rapprocher en étudiant de concert des zones profondément différentes à partir du même objet. Notre idée était que dans un univers marqué par la globalisation, et nous pouvions finalement tester la possibilité d'établir des parallèles, des connexions entre des situations que leur contexte socio-religieux rendent apparemment incommensurables les uns par rapport aux autres. Comparer l'incomparable, c'était au fond l'objectif que nous assignions à cette rencontre. Et puis, un principe aussi d'extension thématique. Le mot « parti », qui figure dans l'intitulé même du colloque, est probablement trop restrictif. Notre idée a été, ce que les contributeurs ont parfaitement accepté, de saisir le milieu partisan dans sa définition la plus large, depuis ses soutiens sociaux jusqu'à ses modes d'organisation et ses dispositifs doctrinaux, dès lors bien sûr que ce milieu partisan était, à un titre ou à un autre, affecté par le religieux. Un religieux que nous avons saisi dans son ontologie weberienne, une ontologie finalement assez faible, comme ce qui touche aux puissances méta-empiriques. Principe de comparaison, principe d'extension thématique, un principe surtout de croisement disciplinaire. Nous avons présenté cette proposition de colloque à l'Assemblée française de sciences sociales des religions, et non point à l'Association française de sciences politiques. Ce choix n'est pas un effet du hasard. L'idée était moins de s'appuyer sur la perspective d'analyse de la science politique, sans nécessairement l'ignorer, que de faire droit au principe d'analyse de la sociologie des religions, en plaçant le religieux, souvent ignoré dans les travaux de sciences politiques, au cœur même de nos investigations. Alors, lorsqu'on s'installe dans ce champ, dans le champ des sciences sociales des religions, il est un point de référence incontournable. Un point de référence incontournable, c'est celui dessiné par le paradigme de la sécularisation. Si l'on reprend les définitions canoniques du concept, celles par exemple d'un Luhmann, celles aussi d'un Luhmann, on s'aperçoit que la sécularisation renvoie à un processus marqué par deux caractéristiques. Un processus, d'une part, de différenciation des fonctions sociales, et plus spécifiquement, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, de différenciation de la fonction politique. C'est un premier élément qui caractérise, au fond, la relation que la modernité a pu avoir avec le religieux depuis le XVIIIe, XIXe siècle. Différenciation de la fonction politique. À quoi s'ajoute, c'est ce que disent nos auteurs, Luhmann par exemple, Berger aussi dans sa première phase, à quoi s'ajoute un phénomène de privatisation de la fonction religieuse. Différenciation de la fonction politique, privatisation de la fonction religieuse. Alors, lorsque nous faisons retour sur les travaux qui ont été produits au cours de ces dernières années sur la question de la politisation de la sphère religieuse, et en particulier de la religiolisation des milieux partisans. Nous sommes confrontés, sur ce terrain du paradigme de la sécularisation, à deux thèses principales. Un certain nombre d'auteurs ont vu, dans ce phénomène de la politisation du phénomène religieux à travers l'émergence de partis à tonalité religieuse, un élément lourd du phénomène de réenchantement du monde. C'est le second Peter Berger qui va tout à fait dans ce sens, en estimant que, au cours de ces dernières années, nous serions confrontés à un effacement, à une privatisation du religieux, nous permettant de parler aujourd'hui d'une désécularisation. D'autres auteurs, c'est le cas par exemple d'un Olivier Roy dans son ouvrage sur l'échec de l'islam politique, ont estimé que le processus de sécularisation s'approfondissait, remettant en cause précisément la thèse du réenchantement, et que souvent les partis religieux étaient les acteurs paradoxaux de cet approfondissement séculariste. Alors, il me semble, c'est en tout cas ce que je voudrais essayer de vous démontrer dans les quelques minutes qui me sont imparties, il me semble que ce colloque nous aide à dessiner une thèse intermédiaire. Une thèse intermédiaire qui vaut au fond sous toutes les latitudes ici abordées. Le phénomène de religiosisation des partis politiques témoigne, me semble-t-il, d'une déprivatisation du religieux. C'est un point auquel nous avons été confrontés au cours de ces deux jours, mais une déprivatisation du religieux qui ne s'accompagne pas pour autant de la différenciation du politique. C'est donc autour de ces deux points que je voudrais essayer de réfléchir avec vous. Il me semble qu'on peut illustrer cette idée, déprivatisation du religieux sans remise en cause de la différenciation du politique, en reprenant les trois éléments autour desquels se sont articulées les communications autour des deux journées qui viennent d'advenir. Il me semble que nous nous sommes intéressés d'abord aux conditions de la théologisation du milieu partisan. Nous nous sommes arrêtés aussi dans un certain nombre de communications sur les modalités de cette rethéologisation, mais nous avons aussi pointé à plusieurs reprises, cet après-midi notamment, les résistances susceptibles d'être perçues contre ou vis-à-vis de cette théologisation des milieux partisans. Alors commençons, si vous voulez, par les conditions de la re-théologisation. Les communications ont montré avec un bel ensemble que, sous toutes les latitudes, les milieux partisans étaient, depuis les années 1980-1990, marqués par une pénétration du religieux dans la sphère partisane. Cela vaut dans le monde juif, avec l'affirmation du bloc de la foi dans les années 1970. Dans le monde musulman, nous avons eu une communication sur l'affirmation du Hezbollah au début des années 80, dans le monde bouddhiste ce matin, et puis dans le monde chrétien. Sur ce terrain-là, il faut lire probablement l'un des tout derniers ouvrages de Michael Sandel qui, comparant le discours du président Kennedy en 1960 et les discours du président Obama dans les années 2010, voit une sorte de re-christianisation, même au sein du Parti démocrate, de la vie partisane, de la vie politique américaine. Cette revanche de Dieu, qui rétablit le clivage religieux, souvent en lieu et place du clivage social, est trop partagée par les différents pays que nous avons explorés pour ne pas appeler une tentative d'explication commune, en dépit, bien sûr, des différences de contexte. Il me semble que pour qu'un parti religieux émerge, pour qu'un mouvement à tonalité religieuse se fasse jour, il me semble que deux conditions doivent être réunies, que les communications ont pointées au cours de notre colloque. Conditions d'émergence qui fonctionnent en circularité et non pas de manière successive. Il faut, me semble-t-il, pour qu'un parti religieux émerge, que la société soit confrontée à une décrédibilisation de l'offre politique. Il faut d'autre part qu'elle soit structurée ou possiblement structurée par une offre religieuse. Encore une fois, ces deux conditions fonctionnent de manière dialectique et non pas nécessairement de manière successive. Commençons toutefois par la décrédibilisation de l'offre politique. Moment de la globalisation, moment de la seconde modernité, comme disait Ulrich Beck, nos communications se sont clairement inscrites dans ce schéma qui a vu, au fond, le politique être frappé de décroyance. Il s'était, lors de la première modernité, constitué sur le mode de l'État-nation, un État-nation modernisateur. On le voyait bien sûr dans les pays européens, on l'a vu aussi par une sorte de diffusionnisme du côté du monde arabe, du côté du monde indien, et un certain nombre de communications ont signalé précisément que le 19e et surtout le 20e siècle s'était structuré autour de cet État-nation qui entendait moderniser les comportements sociaux. Or, il semble bien qu'à partir des années 1970-1980, cet État-là n'est plus en mesure de répondre à ses promesses d'émancipation. On le voit frappé, c'est en tout cas une perception que ressentent les sociétés, par une double crise. Une double crise, et on peut reprendre de ce point de vue l'analyse de Jürgen Habermas. Une crise qui est une crise d'efficacité dans beaucoup des pays analysés ici au cours de ces deux journées. Le pouvoir n'apparaît plus comme étant marqué par la capacité de réguler proprement, rationnellement, le social. On fait valoir souvent, dans la population qui le perçoit ainsi, plusieurs éléments, l'incapacité de l'État à gérer les crises économiques, l'incapacité aussi de l'État à faire face à sa propre corruption. Crise d'efficacité repérable ici, même en Occident, repérable en Tunisie, repérable au Mali, on l'a vu cet après-midi, repérable en Égypte aussi, une crise d'efficacité à laquelle s'est adjointe bientôt une crise d'identité. Il faut bien voir que les sociétés auxquelles nous sommes confrontés depuis les années 1980-1990 se sentent, en tout cas dans certaines fractions d'elles-mêmes, profondément menacées. Profondément menacées, elles sentent qu'elles se fragmentent en de multiples catégories. Aux États-Unis, étudié hier, on voit bien que le sentiment d'une accélération de la pluralisation ethnique, mais aussi de la pluralisation morale, constitue le fondement même d'un appel à des valeurs religieuses communes. En Israël, étudié ici aussi, hier, au même moment, l'affirmation d'un pluralisme moral à la faveur de la sécularisation accentuée de la société appelle une réaction des différentes communautés religieuses dans un phénomène assez classique, au fond, de guerre des cultures. J'ai parlé de guerre. Il faudrait non seulement penser la guerre interne, mais la guerre externe, un certain nombre d'indications nous ont été données au cours de ces deux journées, comme favorisant à certains moments de leur histoire l'appel par les pays à la référence religieuse. On l'a vu pour ce qui concerne le Liban avec l'affirmation du Hezbollah, on l'a vu en Israël, le bloc de la foi ayant été présenté hier, par exemple, comme un résultat d'une réflexion autour de la guerre de 1967. Alors, voilà un certain nombre de points qui permettent de repérer une structure d'émergence qui ne vaudrait évidemment pas indépendamment d'une conjoncture. Et on voit bien que pour que cette structure-là, favorisant l'éclosion de partis religieux, advienne, que des conjonctures particulières doivent favoriser l'action immédiate des acteurs. Un certain nombre de choses ont été dites cet après-midi sur l'importance du moment constituant dans la prise de conscience par les acteurs religieux que quelque chose là se joue, qu'il faut absolument prendre en compte au point précisément de politiser sa propre action dans la société. Alors c'est un premier élément, me semble-t-il, qui permet de percevoir ce pourquoi des partis religieux ou des partis à tonalité religieuse apparaissent à un moment donné de l'histoire. Cette idée que la première modernité a fait son temps et que c'est sur le fondement désormais d'une seconde modernité ouverte davantage au référentiel religieux qu'il faut désormais penser le politique. Mais évidemment, tout cela n'aurait pas de sens si, en face, il n'y avait pas, au même moment, structuration d'une offre religieuse. Et c'est un point aussi sur lequel nos intervenants ont insisté au cours de ces deux jours, en pointant que, face au vide provoqué par la décroyance dans la fonction politique modernisatrice, s'affirment des entreprises religieuses marquées les unes et les autres, quelles que soient au fond les latitudes, par deux types de ressources. Des ressources qui sont d'abord des ressources démographiques. On voit bien que pour qu'un parti religieux advienne, il faut bien qu'une population attende ce discours-là, dans une sorte d'articulation entre l'offre et la demande. Cette idée précisément qu'il ne peut y avoir de milieu partisan à tonalité religieuse que lorsque la société est elle-même, pour une partie de son corps, caractérisée par une attente religieuse renvoyant elle-même à une substance religieuse. Or, dans tous les pays européens, s'il y a eu un phénomène de sécularisation, bien décrit par exemple par Engelhardt, s'il y a eu un phénomène de sécularisation, il y a aussi des résistances fortes des habitus religieux. Les choses sont très claires pour ce qui concerne les pays occidentaux. Toute une partie de l'électorat demeure aujourd'hui encore structurée par des systèmes de valeurs religieuses qui les portent, dans certaines conjonctures, à pouvoir être sensibles à certains types de discours de réarmement spirituel ou religieux sur la propriété, la famille et parfois l'identité religieuse de la nation. On le voit peut-être davantage encore dans les pays musulmans qui ont fait l'objet de plusieurs interventions. On s'est aperçu que l'AKP turc était marqué en particulier par son ancrage dans ce qu'on a appelé l'Anatolie pieuse. On l'a vu pour ce qui concerne la Tunisie, l'Égypte, le Mali, où, comme l'a dit l'un de nos intervenants, malgré une sécularisation sociale réelle, l'islam reste un référent culturel tout à fait essentiel. Alors bien sûr, les motifs du vote, les motifs de l'engagement sont toujours, on l'a bien dit au cours de ces deux jours, extrêmement complexes et s'articulent tout à la fois les vecteurs sociaux du vote avec les vecteurs religieux du vote. Il reste cependant que nous avons là des habitus partagés qui peuvent en effet entrer en connivence avec l'offre religieuse que permettent les entreprises religieuses dont il s'agit. Ressources démographiques, mais aussi ressources institutionnelles, on a bien vu au cours de ces deux jours que pour qu'un parti à tonalité religieuse s'affirme, il faut que préalablement à son inscription dans le champ partisan, le corps social, locales aient été structurées par des associations. On a parlé tout à l'heure de corps intermédiaires. La Tunisie, par exemple, voit émerger Ennahda, voit s'affirmer Ennahda dans certaines régions à la faveur de structures associatives préalables. Pour ce qui concerne l'Égypte, on aurait pu ajouter l'Irak, les confréries soufis vont connaître, mais parce qu'elles sont déjà structurées en confréries, une possibilité de passage politique. Pour ce qui concerne Israël, Alain Dikoff nous parlait hier du jeu structurant, socialisant des écoles avant même que les partis religieux ne se structurent réellement dans le courant des années 1960-1970. Alors, tout cela ne suffirait pas à expliquer ce qu'est la genèse d'une formation partisane s'il n'y avait aussi une réflexion théologique. À plusieurs reprises, nos intervenants ont pris position sur cette idée que nous sommes structurés par ce que Claude Lefort appelle un imaginaire du politique. Cette idée précisément qu'il faut croire que le politique est un lieu nécessaire et légitime d'intervention pour que le parti politique se structure. Et on a vu au cours de ces deux jours que du côté du Sri Lanka, par exemple, les bouddhistes ont réussi à construire une légitimité de l'action politique, ce qui n'était pas du tout acquis au regard de la tradition antécédente. On a vu ce matin qu'avec les évangéliques aussi, sur le fondement de ce qu'on a appelé la théologie de l'hypergrâce, il pouvait y avoir une ouverture du côté d'une possible valorisation de l'action politique. Autant d'éléments qui renvoient à cette idée tout à fait structurante de la sociologie de Claude Lefort que précisément le passage au politique suppose toujours un travail sur notre propre normativité. Alors voilà un premier élément, je crois, tout à fait essentiel dans le cadre de ce colloque, cette idée que nous avons pu penser la possibilité de la génération des entreprises partisanes à tonalité religieuse, à travers cette dialectique entre d'un côté le silence du politique et de l'autre la parole du religieux. J'ajouterais maintenant un second point, peut-être, en allant plus vite. C'est qu'il faut aussi, c'est ce qui a été fait au cours de ces deux jours, penser les mécanismes de théologisation de l'espace partisan. Mécanismes de théologisation de l'espace partisan, on voit bien que les partis religieux ou les partis à tonalité religieuse s'inscrivent dans le social au nom d'une religion de la norme. Mais comment faire passer la norme divine, dans un univers qui s'affirme au nom de sa propre sécularité? Ce point a été examiné, a été exploré par nos intervenants au cours de ces deux jours à partir de deux registres d'expression. Ils ont d'une part mis en évidence le fait que les partis religieux s'organisent autour de dispositifs organisationnels d'un type particulier. Ils y ont ajouté qu'à ces dispositifs organisationnels, il fallait aussi, bien sûr, faire place à des dispositifs de type idéologique. Alors, pour ce qui concerne les dispositifs organisationnels, le religieux normatif ne s'installe pas dans les structures partisanes partout semblablement. On a repéré au cours de ces deux jours deux stratégies différenciées. D'une part, une stratégie de concentration qui vaut, il faudrait évidemment nuancer ce que je dis, qui vaut dans les sociétés à forte structure communautaire et à moindre intensité de sécularisation. On a affaire ici à une figure de l'homogène, à une figure du rassemblement, à une figure de la concentration. Les partis s'affirment au nom d'une unité religieuse et agrègent clairement en leur rang les mêmes co-religionnaires. C'est le cas au Liban avec le Hezbollah, en Tunisie avec Ennahda, en Israël avec les partis du bloc de la foi. Ce sont clairement des partis religieux qui portent l'homogène dans leur nom même, dans leur intitulé même, qui renvoie toujours à une alliance confessionnelle. On pourrait dire la même chose du parti bouddhiste à Sri Lanka, qui porte ce nom délicieux, l'armée de la force bouddhiste, renvoyant précisément immédiatement à l'allégeance confessionnelle qui viendrait appeler désormais une allégeance politique. Stratégie de concentration, à quoi s'ajoute une stratégie de pénétration. Dans les sociétés moins segmentaires, dans les sociétés moins communautaires et peut-être plus sécularisées, on ne trouve pas de partis religieux homogènes, de partis religieux repliés sur eux-mêmes. C'est en tout cas très rare, ce n'est pas la formule dominante. Le religieux vient ici s'installer dans des partis constitués sur des bases généralistes. C'est le cas pour le Parti républicain aux États-Unis, étudié hier. C'est le cas en France avec les Républicains, dont Yann, tout à l'heure, nous a montré comment ils pouvaient être ouverts à des formations venant de l'extérieur, se constituant une niche appelée probablement à gagner en prospérité à l'intérieur d'un parti qui ne se définit pas d'abord par son nom chrétien ou par son nom religieux. Alors, ce sont des éléments, je crois, importants, mais qui n'empêchent pas, malgré les différences de stratégie organisationnelle, ces figures-là, de vouloir reconfigurer le rapport entre le politique et le religieux sur le fondement non plus d'une politique du juste, mais d'une politique du bien. Une politique du bien qui va trouver à s'incarner dans des dispositifs idéologiques qui ont été analysés avec précision au cours de ces deux jours. Alors il faudrait ici, bien sûr, peut-être, si on en avait le temps, faire une différence entre l'organisation interne, entre les organisations internes des différents partis. Il est des partis religieux portant le nom religieux homogène, imposant à leurs membres une véritable ascèse. On est dans le monde de l'Église, telle qu'elle a été décrite par Niebuhr. Et puis de l'autre côté, des partis plus latitudinaires qui exigent beaucoup moins de leurs membres, le Parti républicain aux États-Unis, même le Parti national religieux en Israël, sont des partis qui finalement acceptent la tiédeur religieuse de leurs militants. Nous sommes là davantage dans le modèle de la dénomination telle que Niebuhr l'a décrite. Mais tous ces partis ont cependant, à l'heure actuelle, un discours normatif ad extra fondé sur un double registre. Tantôt, ils affirment le registre de l'identité. Les communications nous ont montré qu'un peu partout, on produisait désormais un discours qui vise à réunir les existences autour d'une identité partagée, tantôt une identité communautaire, tantôt une identité nationale, par recréation mémorielle. On se souvient hier des appels à la nation chrétienne de Trump, on se souvient hier aussi du paradigme de Kerbala porté par le Hezbollah. Réemploi mémoriel, reconstruction rituelle, avec cette idée qu'au sein même de la sphère politique, on fait valoir désormais un certain nombre de rituels religieux. Nous n'avons pas écouté la communication sur le Front National, mais elle nous aurait probablement dit que les meetings du Front National s'ouvraient par une messe présidée par un prêtre de la fraternité Saint-Pédis. Autant d'éléments qui montrent bien comment circulent d'un espace à l'autre des rituels qu'on croyait religieux et qui, par la grâce de l'inscription partisane, deviennent désormais des rituels politiques. Registre de l'identité, bien sûr, mais aussi registre de la normativité. Il nous a été dit à plusieurs reprises que ces partis religieux ont finalement une certaine défiance négativement à l'égard du pluralisme démocratique. Sans doute entendent-ils capter les ressources électorales, mais d'une certaine manière pour les retourner contre l'indétermination démocratique en situant la démocratie dans le corps des valeurs religieuses qu'il s'agit de défendre. Valeurs religieuses qu'il s'agit de défendre, et on a beaucoup insisté au cours de ces deux jours sur le fait que ces valeurs religieuses se fixaient de plus en plus autour de la question de l'intime, autour de la question du genre, autour de la question du statut de la femme. Les choses sont à ce point prégnantes dans la société contemporaine d'incertitude que même les partis laïcs, que même les partis séculiers sont aujourd'hui en train de s'ouvrir à ce registre de la foi, à ce registre de l'énonciation publique du religieux. On a cité hier Obama, on a cité aussi la Tunisie avec le parti Nida Tounes, un parti laïque qui n'hésite pas, lui non plus, à articuler le religieux et le politique dans ses propres paroles et parfois même dans ses propres rituels. Mais la relation est ici purement instrumentale, sans guère d'effet performatif, comme d'ailleurs le Parti socialiste dans les années 70 en avait fait l'expérience en accueillant des chrétiens de gauche qu'il s'est très vite efforcé d'oublier. Alors, il reste à terminer peut-être ce résumé, cette synthèse de ces deux jours, en évoquant les zones de résistance, résistance à la théologisation du milieu ou de l'espace partisan. Je ne veux pas pointer ici simplement les limites externes à la désécularisation du monde. Elles sont connues, limites sociales. Les sociétés dont il s'agit, les sociétés que nous avons travaillées, demeurent, en dépit des partis religieux, travaillées par des propositions de sécularisation, des propositions qui sont souvent en augmentation. On le voit dans tous les pays, y compris les pays qui ont les taux de religiosité les plus élevés. Il aurait fallu aussi, sur ce terrain des limites externes de la sécularisation, évoquer les limites juridiques. Cela a été fait cet après-midi avec l'exemple du Mali. On s'est aperçu que dans certains pays, il n'était pas possible de créer des partis confessionnels, tout simplement parce que l'État voulait se protéger et se fixer dans une neutralité poussée à l'extrême. Non, ce colloque nous a permis bien davantage de saisir les limites internes au phénomène de re-théologisation de la sphère partisane. La résistance à la désécularisation, la résistance au réenchantement du monde, provient des partis religieux eux-mêmes. Et ce n'est pas le moindre paradoxe de ces deux journées que de l'avoir souligné. On le voit, me semble-t-il, à deux niveaux, sous l'effet de l'affirmation d'une double distanciation au sein même des partis religieux, double distanciation au sein même des partis religieux vis-à-vis du religieux lui-même. Une distanciation vis-à-vis du religieux, tout d'abord sur le terrain doctrinal. Les partis religieux sont en fait eux-mêmes travaillés par la sécularisation, travaillés par la modernité, comme d'ailleurs les sociétés au sein desquelles ils sont installés. Nos intervenants nous en ont donné au cours de leur texte deux exemples ou deux illustrations importantes, en dehors du fait d'ailleurs que ces partis, et on sait que le langage n'est jamais innocent, en dehors du fait que ces partis utilisent très souvent le langage de la modernité. Ils parlent de la démocratie, ils parlent de la loi, ils parlent de la constitution, souvent en décalage avec le discours de leur propre tradition. Langage, force du langage. Il n'est jamais neutre, Jean-Pierre Fay nous l'a déjà dit, d'employer le langage de la modernité, on en devient finalement toujours l'otage. Mais c'est sur deux autres points que je voudrais insister. La neutralisation du discours religieux. On l'a vu à quelques reprises. Bien sûr, on parle du religieux. On cite les versets de la religion islamique. On utilise le nom chrétien comme quand on parle ici des héritages chrétiens, des racines chrétiennes de la France. En reste-t-il grand-chose ? On l'a vu avec Nicolas Sarkozy, qui aurait pu faire l'objet ici d'une communication. On a relevé à plusieurs reprises la contradiction entre son affirmation d'identité chrétienne et sa politique migratoire, ou même sa politique de la famille, ou même encore sa politique libérale sur le terrain économique. Et cet après-midi, à propos du Mali, on a évoqué que l'islam, même là, où les taux d'adhésion sont cependant si forts à la religion musulmane, l'islam n'était guère qu'un signifiant flottant, appelant des réappropriations subjectives de la part des individus qui, par ailleurs, pourtant, participent de la culture musulmane. Neutralisation du discours religieux, nationalisation du discours religieux, c'est un point aussi que plusieurs de nos intervenants ont mis en évidence au cours de ces deux journées. Vous savez que le religieux a eu beaucoup de mal avec le national, pour deux raisons essentielles. C'est que le religieux ne doit pas connaître les frontières. Il a, en particulier les religions que nous avons étudiées au cours de ces deux jours, une vocation souvent universelle, l'islam, le christianisme, par exemple. Et par ailleurs, le problème, et peut-être le problème le plus fondamental, c'est que la nation se constitue au XVIIIe, XIXe siècle à partir d'un principe de souveraineté. C'est désormais d'en bas, à partir du collectif national lui-même, que le pouvoir doit s'affirmer. Comment les églises, comment les confessions peuvent-elles accepter une telle immanentisation ? Ce qui explique en effet le décalage avec le référent national. Or, ce que nous avons vu au cours de ces deux dernières journées, c'est que les partis religieux n'hésitent pas, eux-mêmes, à mêler le référent religieux et le référent national, et souvent à subsumer le référent religieux sous le référent national. On nous a dit que l'AKP était devenu de plus en plus, alors qu'il participait d'une grammaire de l'Oumma, un parti nationaliste. On nous a dit que le Hezbollah libanisait l'islam. On nous a dit qu'en Israël, les partis sionistes religieux, qui se défiaient au départ du sionisme, étaient devenus eux aussi des partis nationalistes. Distanciation donc des partis ou du milieu partisan religieux vis-à-vis du référent doctrinal religieux, mais distanciation aussi sur le terrain organisationnel. Sur ce point aussi, les partis religieux ne respectent guère leur charte fondatrice. Ad extra, ils font un usage, par exemple, des technologies démocratiques. Alors, bien sûr, parfois, il n'y a pas d'adhésion substantielle à la démocratie, mais il y a des adaptations fortes qui débouchent sur un système de compromis, sur un système de négociation avec l'altérité, dans le cadre d'un monde où la morale de conviction s'efface pour que s'affirme une simple morale de responsabilité, ce que rejette, on l'a vu ce matin, ceux qui, au sein de la confession évangélique, refusent précisément l'engagement sur le terrain du politique. Et puis surtout, il y a une négociation avec la normativité religieuse. Un certain nombre de choses nous ont été dites à propos de l'Italie, à propos de la France, à propos du Sri Lanka, à propos des confréries soufis ou du mouvement salafiste en Égypte, cette idée que l'on ne respecte guère les autorités religieuses, quelque forme qu'elles prennent désormais. Comme si finalement, par une poussée du social, les partis se distinguaient des corps religieux d'où ils viennent et finalement où ils ne veulent pas revenir. On l'a vu pour ce qui concerne le rapport au clerc, on pourrait le démontrer de la même manière pour ce qui concerne l'accueil aux femmes avec l'AKP, avec les partis politiques iraniens, avec le Goulen, avec le parti Watan que vous avez cité, où il y a là en effet une sorte de négociation, de compromis qui, d'une certaine manière, subvertit le rapport traditionnel à l'ordre même des religions dont ces partis sont issus. Alors on retrouve au bout du compte, et ce sera ma dernière parole, l'hypothèse de départ autour de la sécularisation. Vous vous souvenez, à partir de la définition de Luhmann, j'avais posé l'alternative suivante, sécularisation ou désécularisation, avec cette idée qu'il nous fallait réfléchir à partir de l'objet même ou du paradigme même des sciences sociales des religions. Il me semble que cette irruption du religieux dans le milieu partisan induit finalement un jugement nuancé. On aura vu que cette partisanisation du religieux remet en cause très clairement l'idée loumanienne d'une privatisation de la foi qu'il faudrait réduire à son seul principe de consolation. Non, désormais, on intervient dans la sphère publique. Il y a une déprivatisation du religieux, ce que Casanova appelait précisément l'irruption de la religion publique dans le monde moderne. Mais en même temps, en raison précisément des résistances que j'ai énoncées à l'instant, vous vous souvenez, résistance doctrinale, résistance organisationnelle, on voit bien que l'on ne remet pas pour autant dans ces parties-là, on ne remet pas pour autant en cause l'idée d'une différenciation des ordres. On voit par exemple que ces partis, lorsqu'ils accèdent au pouvoir, maintiennent la théorie de l'État souverain et de l'État-nation. On voit aussi que par le biais des compromis, des concessions, des négociations qu'ils développent, ils affirment aussi la possibilité d'une subjectivation du religieux. Ce colloque comporte évidemment bien d'autres aspects, mais je crois qu'il nous aura permis d'introduire un renouvellement de la réflexion autour d'un concept fondamental des sciences sociales des religions. En tout cas, c'est ce que j'en ai retenu, le concept de sécularisation. Je vous remercie. Alors, ça n'est pas moi qui ai la dernière parole, c'est Marie, probablement.